Voilà. On est content d'être là ce matin avec vous. On était parti pour une semaine, on était la semaine passée à Québec pour une conférence sur l'évangélisation. Et on a aussi profité de passer du temps aussi avec l'église L'Espérance de Québec, ceux qui nous avaient visités ici. Et on leur a promis que cet été, on allait les visiter à Québec. Alors, on est en train d'organiser parce qu'on veut aller les visiter, peut-être pas juste le dimanche, pour qu'on ne fasse pas juste 3 heures de route le dimanche pour revenir. On va essayer de partir le samedi, pour ceux qui peuvent, et de pouvoir justement passer du temps, visiter Québec. C'est tellement joli, Québec, et puis vivre un bon temps aussi en tant qu'église. Donc, nous étions justement à une conférence sur l'évangélisation, comment partager l'évangile dans le contexte québécois. On sait que l'évangélisation a changé et on a parlé des thèmes comme le wokisme, la culture de la cancellation, la culture du racisme. C'est des termes qu'on entend souvent maintenant dans les journaux, dans les articles, les gens nous en parlent. Mais on a besoin de savoir comment que nous, en tant que chrétiens, réagir par rapport à toutes ces nouvelles façons de penser, de voir le monde et comment est-ce que on peut avoir une réponse chrétienne. Le problème des fois souvent qu'on a, c'est que lorsqu'on ne connaît pas un sujet, une actualité ou comme ça, tout de suite on critique, on juge, ah, c'est pas bon et comme ça. Mais les gens ont besoin de voir qu'on est intéressé à ce qu'ils vivent, à leurs défis. Voilà pourquoi que c'est important aussi de comprendre. On aura l'occasion peut-être ce printemps de vous parler un peu plus sur ces sujets pour qu'on puisse avoir une idée un peu plus concrète un peu de ce qui est dit aussi. Et la semaine passée, justement, j'ai pris aussi un petit temps de repos à travers une retraite spirituelle. J'étais dans un bel endroit proche de Bromont. Et c'est un temps où j'ai pu vraiment me reposer, où j'ai pu vraiment prendre du temps avec le Seigneur. Et j'ai eu l'occasion de lire un livre, ça faisait longtemps que je voulais lire, mais je n'avais pas eu l'occasion. Un livre qui s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Et dans ce temps que j'étais là devant Dieu, et vraiment ce terme de la gloire de Dieu m'est revenu souvent. Et je lisais des textes bibliques, je lisais des livres et comme ça, et je voyais que tout ce thème toujours encore, fais-moi voir ta gloire, la gloire de Dieu. Comprendre mieux la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On chante toujours, on veut t'adorer, on veut te louer, on veut voir ta gloire, mais qu'est-ce que ça réellement veut dire, la gloire de Dieu? Alors on va voir un peu ce matin à travers un texte, à travers un personnage dans Prochain Dia de Moïse. Rappelez-vous qu'on a déjà regardé dans ces dernières semaines les exemples de Moïse, de comment que Moïse était là avec Dieu et avec le peuple dans le désert, et comment que pour Moïse c'était difficile de diriger ce peuple qui était rebelle. Et on sait que Dieu voulait donner des lois, des commandements, des instructions à ce peuple avant qu'ils arrivent justement dans le pays promis. Alors, ouvrons notre Bible dans Exode, on va lire quelques chapitres, ou plutôt quelques versets dans Exode. Exode chapitre 24, versets 15 et 16. On avait vu ce texte, comment que, dans un temps justement de jeûne et prière au début de l'année, qu'est-ce que Moïse a fait lorsqu'il a monté la première fois sur la montagne, que Dieu était là dans la présence de Dieu. Exode chapitre 24, versets 15 à 16. Il est dit: Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc si vous lisez un peu encore les versets suivants, vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, maintenant, après 6 jours, tu peux monter dans ma présence, tu peux rentrer dans la nuée, dans la présence de Dieu. Avant qu'il reçoive les instructions, les lois, les commandements que Dieu voulait transmettre, il fallait que Moïse se prépare à rentrer dans la présence de Dieu. Il avait besoin de, c'est vrai que c'est 6 jours, c'est long, 6 jours de rester où il n'a pas simplement fait de s'endormir ou de reposer ou regarder les étoiles. Non, il s'est préparé, il a confessé ses péchés, il a pris le temps pour dire: Seigneur, je veux me préparer spirituellement et personnellement à venir dans ta présence. Et c'est à ce moment-là, après 6 jours, que Dieu l'invita à venir encore plus haut sur la montagne. Monte plus haut sur la montagne parce que je veux te parler, parce que j'ai quelque chose à te dire. On sait qu'après, il est resté pendant 40 jours dans la présence de Dieu. et Dieu lui a transmis les commandements, les lois. Nous-mêmes aussi, nous avons vu durant ces dernières semaines comment de l'importance de s'approcher de Dieu, de l'importance d'écouter Dieu, l'importance de pouvoir être dans sa présence. Mais pour cela, on a besoin de se préparer. On a besoin vraiment de peut-être laisser tous les bruits extérieurs de notre vie, de laisser tout ce qui peut-être nous dérange pour pouvoir vraiment rentrer dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, je suis là, je suis à ton écoute, je veux vraiment t'obéir, je veux vraiment avancer avec toi. » Prochain dia. Alors maintenant, regardons premièrement la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ce mot « gloire » veut dire? Donc ce mot « gloire » vient de la racine en hébreu qui exprime l'idée de pesanteur, de poids et de valeur. Il est utilisé pour décrire la richesse des gens, la splendeur ou l'honneur. Steve Hanson, qui a écrit justement le livre « Fais-moi voir ta gloire », dit cela. « Dans les temps anciens, la grandeur d'un homme était déterminée par le poids de ses avoirs. Plus l'homme était riche, plus la quantité de son argent, de son or et de ses bijoux pesait lourd dans la balance. Le mot représentait la grandeur de l'homme au sein de sa communauté. Le poids de sa richesse déterminait la mesure de son influence. » Donc on voit comment que dans l'ancien temps, le mot « gloire » était lié justement à ce poids, à cette mesure, à quelque chose qui était lourd. Et les gens étaient glorifiés, ou les gens étaient plus dans la gloire lorsqu'ils étaient riches, lorsqu'ils avaient des grandes richesses, ils avaient des grands troupeaux. Ils avaient une grande influence aussi sur les gens autour d'eux. En ce qui concerne Dieu, le mot « gloire » représente le poids infini de qui il est. La gloire de Dieu, justement, correspond à la somme, à la substance de son saint caractère. Elle englobe toutes ses perfections, ses attributs et son essence. Donc, tout ce que Dieu est, voici, c'est sa gloire. Elle inclut justement sa sainteté, sa souveraineté, sa justice, son omnipotence, son omniscience, qu'il sait tout, qu'il est partout, son omniprésence, qu'il est présent partout, sa vérité, sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, son amour et sa colère. Il s'agit de la divinité de Dieu. Donc, en résumé, la gloire de Dieu est la démonstration de son infiniment grandeur, de son immense puissance. C'est quelque chose qui nous dépasse en tant qu'humain. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer. Donc, prochain dia, imaginez Moïse rentrer dans cette nuée. Après 6 jours à se purifier, à se préparer, il rentre dans cette nuée, dans ce temps où il va vivre avec pendant 40 jours et 40 nuits avec Dieu. La première fois qu'il est monté, il a dû descendre parce que justement, il y avait eu le péché. Il y avait eu le péché du peuple qui avait fait un veau d'or. Mais regardez dans Exode chapitre 34, versets 29 et 30. La deuxième fois qu'il est monté encore pour recevoir les instructions de Dieu, Exode chapitre 34, versets 29 et 30, il est dit: puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Cette gloire de Dieu, le fait d'être resté pendant 40 jours dans la présence de Dieu, avait changé le visage de Moïse. Et les Israélites ont eu peur de regarder. Parce que quand ils regardaient le visage, ils voyaient la gloire de Dieu et ils se rappelaient qu'eux-mêmes étaient dans le péché, qu'eux-mêmes avaient fait un veau d'or pour pouvoir se dire, ben ça, c'est lui le Dieu qu'on veut suivre. Ils avaient même peur de s'approcher de Moïse. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que cette gloire de Dieu transparaît sur notre visage? Est-ce que la gloire de Dieu agit sur nous et nous transforme comme elle a été transformée Moïse? C'est vrai peut-être qu'on ne va pas vivre 40 jours sur la montagne, dans la sainte présence de Dieu, mais on va pouvoir refléter cette gloire lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on passe des temps vraiment intimes, forts, édifiants avec le Seigneur. Cette gloire de Dieu va apparaître. On va avoir un sourire, on va avoir quelque chose qui est merveilleux. Les gens vont dire, mais il me semble que tu es différent. Il me semble qu'aujourd'hui, tu as un sourire, tu as une paix sur toi, tu as une joie que moi je n'ai pas. Ça, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu qui se reflète sur nous. Prochain dia, mais comment que Moïse a reçu cette gloire de Dieu sur son visage? Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne entre Moïse et Dieu? Et on va lire Exode chapitre 33, versets 11 à 18. Exode chapitre 33, versets 11 à 18. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Moun, restait dans la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-moi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Verset 14. Dieu lui répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Moïse reprit, mais si tu viens pas avec moi, si tu viens pas toi-même avec moi, ne nous fais pas quitter ce lieu. Prochain dia. À quoi reconnaîtrai-je donc que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous et si nous sommes aussi indistingués, moi et ton peuple et tous les autres peuples sur la terre. Verset 17. Alors l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Là-dessus, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire. Imaginez justement Moïse qui est en train de s'entretenir avec Dieu. Et il voit que le peuple est vraiment en cou raide et vraiment est rebelle, que plusieurs fois il chiale, que plusieurs fois il se détourne de Dieu. Et il se dit, moi, je ne vais pas être capable de diriger ce peuple jusqu'au pays promis. Alors Dieu marche avec nous. Un peu avant, vous allez voir dans le récit justement du veau d'or, que Dieu avait dit, je ne peux plus marcher avec ce peuple parce qu'il est trop dans le péché. Et si je marche avec lui, je vais l'anéantir. Il va être tué. Mais là, Moïse intercède, va lui dire, j'ai besoin que tu marches. Je veux que tu marches avec moi. Alors on voit, dans le prochain dia, l'intercession de Moïse envers Dieu. Chaque demande que Moïse fait à Dieu, Dieu lui accorde ce qu'il lui demande. Pourquoi? Parce que Moïse a cette proximité avec Dieu. Comme il a vu tout au début, il parle avec Dieu comme un ami, en parlant face à face. Dieu s'entretenait à Moïse comme on parle avec un ami. Il avait une communion, une communication incroyable avec Dieu. Le fait qu'il avait une relation vraiment sincère, proche avec Dieu, Moïse était capable de faire, entre guillemets, changer le cœur de Dieu pour qu'il puisse dire, mais il faut que tu marches avec nous. Je ne veux pas juste que ce soit ton ange qui marche avec nous. Sois toi-même qui marche. Moïse veut que Dieu se révèle à lui, lui donne les instructions, comment conduire ce peuple rebelle. Rappelez-vous que quelques instants auparavant, que le peuple, lorsque Moïse était sur la montagne la première fois, qu'en voyant pas Moïse pendant plusieurs jours, on dit, ben, écoute, Aaron, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Et ils ont fondu de l'or et ils ont fait un veau d'or. Et on sait tout aussi la conséquence aussi de ce péché. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées suite à ce péché. Et à la fin de ce dialogue que Moïse a avec Dieu, il va lui demander de voir la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu trop prétentieux de la part de Moïse de dire, mais écoute, je vois que tu réponds à mes prières, je vois que ce que je te demande, tu réponds, mais fais-moi voir ta gloire. Pourquoi que Moïse demande, fais-moi voir ta gloire? Est-ce qu'il voulait avoir peut-être plus quelque chose d'autre que les autres, de dire, ah ben là, moi je vais avoir tellement quelque chose de merveilleux, je vais voir la gloire de Dieu en face, je vais voir Dieu. Le désir de Moïse n'était pas simplement juste de contempler Dieu et sa toute-puissance, mais de comprendre réellement qui était Dieu. De vraiment voir que Dieu était là avec lui, que Dieu allait le seconder, allait l'entourer pour l'aider à amener le peuple vers le pays promis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a accordé ce que Moïse a demandé? Alors regardons dans le verset 19 et 20. Prochain dia. Versets 19 et 20. Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut voir me voir et demeurer en vie. faut juste se rappeler que c'est vrai que même si souvent dans la Bible, on parle de Dieu comme un père, comme quelqu'un qui a un bras pour nous aider, qui nous prend dans ses bras d'amour, Dieu est esprit. Il n'a pas encore comme nous. Mais il est dit qu'il ne pourra pas voir sa face, parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, la sainteté de Dieu, et rester en vie. Devant cette majesté, devant cette sainteté, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas vivre. Mais Dieu s'est déjà présenté aux humains comme un homme. Comme on le voit dans le récit d'Abraham, rappelez-vous, hein, les trois hommes qui arrivent vers Abraham, que Abraham va vite les inviter, se prosterne devant eux, puis les inviter sous ta tente. Et dans ces trois hommes, il y avait Dieu lui-même, puisque plus tard, il parle avec Dieu et il parle de Sodome et Gomorre. Et là, on voit qu'Abraham encore intercède, rappelez-vous, pour Sodome et Gomorre, pour savoir que s'il y a des justes, que Dieu puisse aussi épargner ce peuple. On va voir tout à l'heure, le plus la semaine prochaine, mais on arrive dans le temps de Pâques où Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ en tant qu'homme pour pouvoir venir sur terre pour montrer aussi sa voie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne entre Moïse et Dieu? Lisons le récit où Dieu proclame sa gloire. Regardons en détail ce que Dieu est en train de dire, de faire avec Moïse. Alors, ouvrons notre Bible dans Exode chapitre 34, versets 5 et 7, un peu plus loin. Exode chapitre 34, versets 5 et 7. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis la faute des pères sur le descendant jusqu'à la troisième, même à la quatrième génération. Prochain dia. Alors regardons justement en détail cette proclamation, cette prédication que Dieu fait à Moïse. C'est quelque chose d'important de ce que Dieu proclame à Moïse. Premièrement, il dit, il proclama son nom. Il proclame qu'il est Dieu, l'Éternel. Il est autosuffisant. Il est éternel, sans commencement et sans fin, immuable, toujours le même, sans changement ni variation, absolument autonome. C'est vrai que notre intelligence en tant qu'humain, on n'arrive pas à comprendre réellement encore tout ce qu'est Dieu. Voilà pourquoi que Dieu utilise des images comme un père pour nous montrer qui il est. Mais il est infini. Il est éternel. Il n'y a pas de changement ni de variation depuis le début. Il n'y a pas de début même. Il était là. Donc notre intelligence, on est limité par rapport à comprendre qui est Dieu. Et là, Moïse, lorsque Dieu se présente devant lui, passe devant lui, même le cache sa face pour pas qu'il le voie de face, mais il proclame sa gloire, il proclame qui il est. Dieu prêche son nom, l'Éternel. Il déclare ainsi qui il était, qui il est et qui sera toujours. Dieu existe en lui-même et par lui-même. Il est entièrement suffisant. Il ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Il est lui-même tout. Et pourtant, tout être et toute chose dépendent de lui. Le deuxième point qu'on voit dans cette prédication que Dieu donne, Dieu est indépendant et puissant. Dieu n'avait pas besoin de créer l'homme pour lui tenir compagnie parce qu'il se sentait seul dans le ciel. Des fois, on entend ça, que des fois Dieu est seul puis qu'il avait besoin de la présence de Dieu, de l'homme. Non! Dieu est suffisant, il est grand, il est puissant. Mais il a voulu partager cette gloire avec les hommes. Il a voulu aussi que les hommes puissent lui rendre gloire pour tout ce qu'il est. Il est puissant. Le but de Dieu en créant l'humanité était simplement de montrer sa gloire. Regardez dans le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Toute l'étendue, tout le paysage, tout ce qui se trouve autour de nous démontre la gloire de Dieu. Lorsque j'imagine, lorsque je pense à comment est-ce que la terre a été faite, même si l'humain est en train de détruire la terre, est en train de faire quelque chose de mal, mais comment que la terre tourne, comment que la terre reste dans l'univers, comment les saisons sont là, comment que chaque année les arbres revivent, comment que nous-mêmes, nos propres corps vivent des années sans besoin d'être réparés, entre guillemets, comme une voiture. Tout comment notre corps fonctionne, c'est pas comme comme le Big Bang, comme certains, ou une petite cellule qui d'un coup est apparue a fait ça. C'est pas croyable, c'est pas possible. C'est Dieu Tout-Puissant qui a créé ça, qui a fait que tout soit en harmonie et que tout fonctionne à merveille. Donc la force, le pouvoir appartient à Dieu. Il est tout-puissant sur tout, tout-puissant même sur notre ennemi Satan. Même si on lit dans la Bible qu'il y a une guerre entre Satan, entre le bien, entre Dieu le bien et Satan le mal, mais la guerre est déjà gagnée par Dieu, parce que Dieu est beaucoup plus puissant que Satan. Même si Dieu permet à Satan de régner un temps sur la terre, la toute-puissance est à Dieu. Lorsqu'on prie Dieu dans sa toute-puissance, on ne doit pas douter que Dieu est beaucoup plus puissant que l'ennemi. On ne doit pas craindre l'ennemi pour croire, dire, ah ben, est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Est-ce que Dieu va pouvoir vaincre l'ennemi? Non, il a déjà vaincu. Parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est tout. Prochain, Dieu proclame aussi qu'il y a un Dieu plein de compassion et de grâce. En même temps de sa toute puissance, il est Dieu plein de compassion et de grâce. La toute-puissance, c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais en même temps, il est un Dieu qui est proche. Voilà pourquoi qu'il a voulu nous créer. Il veut nous apporter cette compassion, cette grâce. Il veut vraiment nous la partager. Voilà pourquoi qu'on prend toujours cette image du Père. Que Dieu comme un Père, Dieu qui nous prend dans ses bras d'amour, qui nous console, qui nous sécurise. Si vous savez, le président des États-Unis peut gracier n'importe quel prisonnier en tout moment. S'il décide qu'un tel prisonnier veut être gracié, même s'il a fait plusieurs meurtres ou il a plus des crimes, il est capable de le faire parce qu'il a cette autorité. Dieu est au-dessus du président des États-Unis. Dieu a aussi cette autorité pour tout pardonner, pour donner justice à qui il veut, de donner grâce, compassion à qui il veut. Il est dit dans Exode chapitre 33, verset 19. Exode chapitre 33, verset 19. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Donc ce verset démontre que Dieu donne sa compassion et sa grâce à qui il veut. Et il va le donner à ses enfants qui le suivent, ceux qui acceptent de le louer, ceux qui acceptent de lui rendre gloire. Donc cette grâce, cette compassion n'est pas liée à notre vie, à notre qualité, à notre ministère, à notre relation avec Dieu, à notre beauté, à notre bonté envers les autres, etc. Ça ne dépend pas de nous. La compassion, la grâce de Dieu dépend uniquement de lui. Il fait grâce et compassion à qui il veut. Ça peut me rassurer que de me dire que même si je suis au plus profond de ma vie misérable, si je suis au plus profond de mon péché, je peux avoir la certitude que si j'appelle Dieu, si j'accrie à Dieu, que Dieu va se pencher vers moi, qu'il va m'apporter cette grâce et cette compassion, qu'il va être capable de me redresser, me redonner des forces et un espoir de vie. Il proclame Dieu aussi qu'il est lent à se mettre en colère. Donc Dieu démontre sa grâce et sa compassion et ainsi démontre qu'il est lent à la colère. À ceux qui méritaient le péché, à ceux qui méritaient la mort, il est lent à la colère. Il est lent à se mettre en faute par rapport à nous. N'est-ce pas magnifique que même si Dieu est tout-puissant, que l'Éternel, il est souverain, qu'il est lent à la colère, pour nous donner la possibilité d'être graciés, d'être pardonnés une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, à tout moment, jusqu'à la fin de notre vie, nous sommes pardonnés, ça durant toute notre vie. Imaginez si vous étiez à la place de Dieu. Combien vous auriez été peut-être en colère de voir vos propres enfants, ceux que vous avez créés, se détourner combien de fois de Dieu, combien de fois justement de tomber dans le péché, combien de fois d'abandonner cette relation intime avec celui qui était notre créateur, de faire comme le peuple d'Israël des idoles en métal au lieu d'adorer le vrai Dieu. On serait en colère, hein? Même des fois avec nos enfants, quand ils font tout le temps les mêmes erreurs, fautes, bien, à un moment donné, on perd patience. Mais Dieu dit, il est lent à la colère avec chacun de nous aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ah, parce que Dieu est lent à la colère, je peux faire n'importe quoi puis demander la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Autant des conséquences positives. Lorsqu'on fait le bien, Dieu nous donne des conséquences positives, fait des choses merveilleuses à travers nous. Mais autant que si nous sommes dans le péché, autant si nous faisons des fautes, il y a des conséquences aussi négatives que nous allons avoir. Même si Dieu peut nous pardonner, il reste quand même qu'on peut avoir des conséquences. Regardez la génération qui était dans le désert. À chaque fois, ils revenaient vers Dieu. Mais la conséquence de leur péché, de leurs nombreux péchés, c'est qu'ils sont tous morts. Toute la génération est morte dans le désert. Et c'est seulement la deuxième génération qui a eu l'honneur de pouvoir habiter dans le pays promis. Prochain diable, il proclame aussi à Moïse qu'il est riche en amour et en fidélité. Cet amour de Dieu envers son peuple, même rebelle, n'a pas changé. Dieu reste fidèle à sa promesse qu'il est le peuple de Dieu et qu'il va le protéger. Même si vous relisez plus tard que lorsque, à cause des conséquences du péché, le peuple est déporté à Babylone ou dans d'autres places, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu va leur dire, c'est pour un temps et un jour, je vais vous ramener dans le peuple, je vais vous ramener dans mon pays, je vais vous reconstruire les villes, le temple, pour que vous puissiez de nouveau m'adorer. Démontre que justement, Dieu est capable d'aller chercher les peuples, même s'ils sont en déportation, même s'ils sont loin de lui. Dieu est amour envers chacun de nous aujourd'hui, et il démontre à chacun de nous à tous les jours. Lorsqu'il nous donne le souffle de vie, lorsqu'il nous donne la nourriture et toute autre chose pour vivre, il nous démontre son amour, sa fidélité. Quotidiennement, à chaque jour, il nous accompagne. Voilà l'épreuve de son amour, de sa fidélité. Bien plus que lorsque nous sommes dans les détresses, dans les défis, dans la maladie, dans le désespoir face à un problème, Dieu démontre encore son amour. Il nous encourage par sa présence, nous console dans les moments pénibles. Une autre chose que Dieu proclame, je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. On voit comment que sa compassion est grande, comment sa fidélité est infinie, puisque 1000 générations, c'est comme tellement grand infini. Je remercie souvent quand même Dieu d'avoir vécu dans une famille qui craint Dieu depuis des générations. À ce que je sache, je crois que même mon arrière-grand-père ou même avant était dans la présence de Dieu. Et je suis sûr, je suis persuadé qu'il y a eu des bénédictions. Parce que lorsque, comme il est dit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Les bénédictions lorsque vous suivez Dieu jaillissent aussi sur vos enfants, vos petits-enfants. Même s'ils ne suivent pas directement Dieu, ils reçoivent quand même la bénédiction de Dieu. Ils reçoivent aussi la grâce de Dieu. Alors, restons dans cette confiance, dans cette fidélité de Dieu, parce que Dieu va agir, Dieu va faire de grandes choses aussi. Il dit aussi, je pardonne le crime, la faute et le péché. On voit encore sa compassion, sa grâce. Encore une fois, il démontre qu'il est prêt à pardonner le crime, la faute et le péché. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu, la croix et le poignard du film, l'histoire vraie de ce chef de gang dans les années 70 à New York, Mickey Cruz. J'ai eu l'occasion de l'entendre une fois lors d'un témoignage. Et il nous dit, et on le voit dans le film, comment qu'il avait de la peine à croire vraiment que Dieu pouvait lui pardonner. Lui qui avait fait tellement de crimes, tellement de mauvaises choses. Il avait tué des gens, il avait massacré des choses, il avait fait énormément de mal. Et il ne pouvait pas concevoir que Dieu, qui était plein de grâce, pouvait lui pardonner. Et lorsqu'il voyait David Dickerson, ce jeune prédicateur qui était tout frêle, devenir devant lui et simplement dire « Jésus t'aime ». Et lui, il voulait arriver avec la hargne de tout ce qu'il vivait. La mort était dans ses yeux. Et à chaque fois, David disait « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et devant simplement ce mot phare, il a dû se mettre à genoux, tellement qu'il a été convaincu de l'amour de Dieu. Mais il a dit « ça m'a pris du temps avant de réaliser réellement, est-ce que Dieu vraiment veut me pardonner tout ce que j'ai fait de mal ?» Dernièrement, on a eu notre discussion avec les ados par rapport justement au pardon et au péché. Et on discute souvent des fois, en tant que personne, on peut faire souvent des mêmes péchés, que souvent on demande pardon à Dieu, mais comme on donnait le lendemain, on refait le même péché. Et on parlait, puis certains nous disaient que c'était difficile parce qu'ils avaient l'impression qu'ils demandaient toujours le même pardon à Dieu. Et qu'ils avaient des fois un peu honte de venir s'approcher de Dieu parce qu'ils disaient, mais J'ai déjà demandé pardon à Dieu pour cette chose il y a quelques instants, et là je continue de le faire. Mais je leur ai dit que oui, c'est vrai que c'est difficile, mais on ne doit pas vivre dans la culpabilité. C'est vrai que si on a honte, ça veut dire que Dieu a, on a cette honte de faire de mal devant Dieu, mais qu'on a besoin de changer. Que oui, peut-être ça va prendre du temps avant de réaliser vraiment de pouvoir plus faire le péché, le même péché. Des fois, ça peut prendre des mois, des années, malheureusement. Mais Dieu est toujours plein de compassion, d'amour. Mais ça ne veut pas dire que, comme justement Nicole me disait une fois dans son témoignage tout au début, qu'elle avait la difficulté d'aller dans l'église catholique là où elle était jeune, parce que les gens prenaient la communion, la Sainte Cène, demandaient la grâce, le pardon de Dieu, et dès qu'ils sortaient de l'église, ils commençaient déjà à injurier les autres, à dire tous les mauvais coups qu'ils allaient faire. Donc c'est comme, tu vas devant Dieu demander pardon, mais ça ne change rien dans ta vie. Il est dit dans le prochain dia que Dieu proclame encore à Moïse, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Donc on voit que autant que l'amour, la grâce de Dieu est grande, autant Dieu agit dans la vérité. Oui, c'est vrai qu'il est prêt à pardonner. Aussi celui qui est dans la faute, même à répétition. Mais aussi qu'il ne peut pas dire ben simplement, ok, on balaye tout, puis tu es juste, et puis tu peux continuer ton péché. Non. Dieu veut démontrer à Moïse qu'il est amour, qu'il est riche en bienveillance, lent à la colère, mais qu'il veut aussi démontrer qu'il ne prend pas le péché à la légère. Dans le sens que oui, on peut s'approcher de Dieu pour demander sa grâce et son pardon, mais pas croire que c'est juste une baguette magique. De hop, on demande à Dieu pardon, puis on recommence comme avant. Dieu va voir ce que nous faisons. Dieu va voir par nos œuvres si réellement nous sommes changés, transformés. Si quand on demande pardon, si réellement c'est un pardon qui est sincère, ou bien si c'est juste pour nous faire peut-être par habitude, ou bien parce qu'on a peur que d'aller en enfer. Je pense que vous connaissez la chanson française, il y a une chanson française des années 70 qui dit que tout le monde va aller au ciel. Chaque fois que j'entends cette chanson, ça me fait monter. J'aime bien la musique française, mais cette musique-là, elle me fait monter. Il dit tout le monde, qu'on soit chrétien, qu'on soit animaux, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit fait du bien, des bonnes choses, qu'on fasse des mauvaises choses, tout le monde va aller au ciel. Non, c'est pas ça. Il faut être juste. Dieu regarde, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il est dit aussi, je punis la faute jusqu'à la quatrième génération. Voilà la conséquence de la désobéissance de Dieu, qui va se perpétrer jusqu'à la quatrième génération. Ça ne veut pas dire que si, en tant que parents, on fait des péchés, que nos enfants vont avoir la répercussion de ce péché, dans le sens qu'ils vont avoir les conséquences. Ils vont avoir peut-être les conséquences du mal qu'on aura fait, les conséquences de ce péché, mais le péché ne sera pas sur les enfants. Mais voyez la grande compassion de Dieu. Avant, il a dit qu'il allait bénir jusqu'à 1000 générations. Là, il dit qu'il va punir jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Donc, on voit que c'est limité. C'est limité parce que Dieu est tellement plein de grâce, de compassion, qu'il ne veut pas donner la conséquence du péché aux gens pendant longtemps. Il leur dit à un moment donné, je vais laisser. Je vais donner la compassion, l'amour à ces personnes. Donc, voilà comment que Dieu proclame en passant devant Moïse. Voilà la prédication que Dieu fait pour expliquer qui il est et ce qu'il fait. N'est-ce pas merveilleux pour Moïse de voir non seulement la gloire de Dieu, la nuée, la splendeur, la majesté de Dieu, mais d'entendre Dieu lui parler, lui dire qui il est exactement. Alors, prochain dia, cette gloire de Dieu, elle est encore disponible pour nous. Elle est encore valable parce que Dieu ne change pas, il reste le même. Dieu veut encore proclamer sa gloire sur nous, sur cette terre, pour proclamer comment qu'il est, comme dans cette prédication qu'il a dit à Moïse, comment qu'il est grand, comment qu'il est puissant, comment qu'il est plein de compassion, de grâce, comment qu'il est lent à la colère, comment qu'il est riche en amour. Et quelle est la réponse que nous allons avoir devant cette gloire, devant cette majesté? Regardez au verset 8, verset suivant. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Dès qu'il voit la gloire de Dieu, dès qu'il entend prêcher Dieu, il s'empresse de s'incliner à terre et de se prosterner. Parce qu'il voit que il peut pas tenir debout devant Dieu, devant cette majesté, devant cette grandeur, cette puissance, devant tout ce que Dieu est. Il veut se mettre à genoux pour l'adorer, pour le louer. Voilà la véritable posture qu'on doit avoir devant l'éclat de la gloire de Dieu. De s'incliner devant sa majesté, de reconnaître notre petitesse en tant qu'humain pécheur devant la majesté de la puissance de Dieu. De se prosterner pour démontrer qu'il est tout, qu'il est au-dessus de nous. Non pas dans une prosternation de peur, pour de peur qu'il nous anéantisse ou qu'il n'est pas content de nous, mais dans une véritable et juste prosternation et adoration de qui il est. Alors pour terminer, prochain dia, rendre gloire à Dieu ou donner gloire à Dieu, c'est de le louer, c'est de lui rendre honneur, c'est de l'exalter, c'est de célébrer ses perfections. Glorifier Dieu, c'est lui rendre hommage, le reconnaître comme le seul souverain et la source de tout bien. Psaume 29, verset 1 et 2. Psaume 29, verset 1 et 2 dit: célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. L'auteur du livre « Fais-moi voir ta gloire » dit: Dieu doit être la plus grande priorité dans notre existence. Nous devons chercher la gloire de Dieu de tout notre être. Chaque décision que nous prenons doit avoir Dieu comme principale préoccupation. Notre plus grande priorité doit être d'exalter Dieu. Cherchons à connaître Dieu davantage, à l'aimer plus profondément, à contempler sa gloire de plus en plus près. Donc plus nous connaissons la gloire de Dieu, plus notre cœur va brûler d'un amour ardent pour lui et plus nous lui ferons confiance. Alors nous allons pouvoir faire cette prière la même que Moïse. Dieu, fais-moi voir. Dieu, fais-moi voir ta gloire. On peut demander ça. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux ressentir tout ce que tu es. Je veux pouvoir goûter à ta présence d'une façon nouvelle. Je veux que tu puisses prêcher devant moi qui tu es, comme tu l'as fait avec Moïse. Je veux mieux te connaître afin de pouvoir mieux t'adorer, afin de mieux pouvoir aussi exalter ton nom, afin de mieux vivre davantage comme toi, tu le désires. Nous sommes justement, comme on l'a dit, dans les derniers temps, les derniers jours qui précèdent Pâques, on va voir comment que Dieu s'est glorifié à travers Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va voir comment que la gloire de Dieu s'est manifestée à travers Jésus-Christ. Mais on a besoin de se préparer. Lors de ce rappel de Pâques, l'important c'est de dire pourquoi que Jésus-Christ est venu sur terre. Pourquoi Dieu s'est fait homme pour venir sur terre pour être crucifié, pour nous donner la vie. N'est-ce pas ce cadeau merveilleux de sa grâce, de sa compassion, le fait qu'il soit lent à la colère, le fait qu'il nous pardonne. Il veut nous démontrer encore plus qu'il est Dieu. Alors il faut qu'on puisse encore plus dire: Seigneur, oui, fais-moi voir ta gloire. Alors simplement couvrons notre tête. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. On va faire un chant qui s'appelle « Fais-moi voir ta gloire ». C'est le prochain dia. Nicole, tu peux le laisser sur le manicam. J'aimerais simplement que pendant ce temps, pendant ce chant, on puisse dire à Seigneur: « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux ressentir qui tu es. Je veux, comme Moïse, me prosterner devant toi. Je veux mieux te connaître. Je veux encore approfondir ma relation avec toi. Je ne veux pas avoir ta gloire juste parce que pour pouvoir voir comme les autres, y avoir quelque chose de magnifique devant moi. Non, je veux te connaître plus. Je veux saisir réellement qui tu es. » Alors demandez-lui. Dites au Saint-Esprit: « Saint-Esprit, fais-moi voir la gloire du Père. Je veux mieux te connaître. » Et Dieu va se manifester. Dieu se va manifester à travers sa gloire. Alors, puis après ce chant, on va prendre un temps de prière. On n'a pas fait le temps de prière, mais on va prier après, tous ensemble, pour demander cette gloire de Dieu, pour que ce temps de Pâques soit un temps qui soit propice, un temps où on va pouvoir vraiment chercher la présence de Dieu, où on va avoir vraiment aller un pas de plus dans la présence de Dieu, de monter dans cette nuée comme Moïse, de monter dans cette sainte présence de Dieu et de pouvoir vivre cette plénitude avec le Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose de différent avec nous. Alors il veut simplement qu'on puisse l'adorer, le louer.